Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Ce matin au micro de France Culture dans Chrétien d'Orient avec Sébastien de Courtois, nous sommes réunis pour évoquer le souvenir d'Anaïde Termination qui nous a quittés en ce début d'année 2019. Je veux parler de cette grande dame à la voix si familière pour les auditeurs de France Culture, d'abord dans Foi et Tradition des Chrétiens Orientaux avec mon prédécesseur Jean-Pierre Anquiri, dont elle était une fidèle invitée et conseillère pour nous proposer encore jusqu'à notre dernière émission, émission que nous avons faite ensemble sur les Pauliciens, un sujet, un livre, un jeune photographe, un chercheur dont elle suivait les travaux avec bienveillance, ou encore pour nous évoquer un voyage. Je pense à l'un de ses nombreux retours d'Arménie, d'Anatolie, d'Istanbul, une terre qu'elle aimait plus que tout et elle avait repris ses routes de pèlerinage, les routes de pèlerinage de ses ancêtres. Elle n'a jamais cessé depuis de répondre avec enthousiasme à chacune de nos propositions, incarnant avec passion ce lien avec le passé, une vie tissée de rencontres humaines, hors normes, sans distinction de religion ni d'origine. Nous nous sommes entendus tout de suite, je dois dire. Elle est venue se présenter aux jeunes producteurs et journalistes que j'étais en 2011, alors que c'est moi qui aurais dû aller vers elle. Nous avons travaillé ensemble et à chaque fois c'était un véritable bonheur, intérêt, source de curiosité de la recevoir dans notre émission. Je suis ce matin pour évoquer la mémoire d'Anaïde Termination en compagnie de sa fille, Taline Termination, que bonjour. Je remercie, bonjour, d'être venu jusqu'à nous en ce dimanche matin. Et je remercie aussi Isabelle Cortian, bonjour.
Bonjour, Sébastien.
Alors, vous avez bien connu Anaïde. Isabelle, je me tourne vers vous pour commencer cet entretien, cette présentation peut-être. Anaïde a marqué son temps, de la recherche. Et ce qui m'a frappé à chaque fois que je l'écoutais me parler des jeunes chercheurs, c'est qu'elle était toujours très motivée, très enthousiaste pour passer le relais, pour continuer à motiver les jeunes dans cette jeune doctorant pour cette recherche qui l'intéressait tant.
Tout à fait, c'est une figure, Anaïde, qui nous a quittés, c'est une figure remarquable qui se caractérise par la passion de transmettre qu'elle avait et qu'elle nous a tous insufflé. Je voudrais quand même faire une petite parenthèse et vous remercier, Sébastien, d'organiser cette émission en hommage à Anaïde qui nous a quittés et dont la voix encore résonne dans ces murs et beaucoup d'émotions pour nous aujourd'hui et pour beaucoup de gens en France et aussi ailleurs dans le monde qui ont perdu Anaïde et qui sont tristes aujourd'hui.
Alors vous êtes journaliste indépendante, vous avez étudié la philosophie, les relations internationales.
Et je me suis formée au séminaire d'Anaïde Termination, voilà. Ce fameux séminaire qui a commencé de façon un petit peu ponctuelle, on ne savait jamais s'il serait prolongé, mais en France, vous savez, il n'y a que le provisoire qui dure. Et donc pendant plus de 20 années, il y a eu ce séminaire à l'école des hautes études, que j'ai commencé à fréquenter, j'étais vraiment encore lycéenne, et puis étudiante, et que j'ai fréquenté ensuite jusqu'à mon départ au Canada. Venaient à ce séminaire des étudiants, ces étudiants, des gens de la communauté arménienne, mais il y avait aussi des gens de toutes les nationalités, parce qu'il ne faut pas oublier que l'école pratique des hautes études, il y avait beaucoup d'étudiants étrangers aussi qui venaient, qui étudiaient, des réfugiés de coups d'État du monde entier, par exemple, celui de 80 en Turquie, mais il y en avait d'autres aussi, d'autres horizons. Et elle a formé beaucoup d'étudiants, on se souvient de Claire Mouradian, mais on se souvient aussi de Hamid Bozaslan, que j'ai connu, qui arrivait de ce séminaire, voilà.
Le séminaire était dans quelle période à peu près?
Il a commencé dans les années 70, au début des années...
Je ne sais plus grand-chose. Peut-être à la fin des années 70 ou quelque chose comme ça.
Petit peu avant, je pense. Il faudrait regarder ça de plus près. Mais moi, je sais que j'étais encore au lycée, voire au collège. Donc, j'étais vraiment la plus jeune. Mais il y avait donc des étudiants, ces étudiants à elle, des étudiants arméniens qui essayaient de s'initier à la recherche arménienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les études arméniennes, il existait autour de l'école des langues orientales, comme on l'appelait à l'époque, mais on s'occupait que des périodes extrêmement anciennes, Machtos, l'alphabet, le siècle d'or, mais la période de l'histoire contemporaine arménienne, elle n'existait pas, et Anaïde a vraiment été cette pionnière qui a fait entrer l'histoire contemporaine arménienne dans le monde universitaire français.
Et une histoire des Arméniens au présent, en fait.
Au présent, qui était son obsession. C'était vraiment ce qui l'intéressait. Ça a été l'histoire des mouvements révolutionnaires arméniens et en les mettant en rapport avec l'émergence de tous les autres mouvements révolutionnaires arméniens dans cette région qui comprenait à la fois le monde perse, avec la révolution perse, le monde ottoman, l'Empire ottoman, et puis aussi l'Empire russe avec les révolutions ottomanes et les révolutions russes. Donc c'est dans cette ère géographique-là, les Arméniens, ils y vivaient depuis très longtemps. Ils participaient à la vie politique et au renouveau des idées politiques, aux idées de révolution, d'émancipation, d'alphabétisation, beaucoup allaient étudier à l'étranger, en Europe en particulier, sous l'influence des idées européennes, revenaient participer aux côtés d'autres peuples à ces révolutions-là. Et puis, tout d'un coup, il y a eu cette période aussi extraordinaire qu'elle a que moi j'appelle un miracle, mais à laquelle s'est consacrée Anaïde, qui voit l'émergence, enfin la transformation progressive entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, des Arméniens qui avaient perdu tout état, toute indépendance depuis la chute d'Annie et depuis en fait aussi le XIIIe siècle, la fin de la principauté de Magou, qui se sont retrouvés finalement... lutte d'émancipation nationale, mouvement révolutionnaire, lutte d'autodéfense et à la création d'un État arménien aussi en 1918. Ça survient brutalement sans que ça ait été extrêmement préparé. Mais en même temps, on a un petit demi-siècle miraculeux qui fait que ce peuple, qui était une masse de paysans ou d'artisans ou d'ouvriers, d'intellectuels, mais très coupés aussi de début de formation d'une élite intellectuelle arménienne, c'était le début, hein, au début du XXe siècle, et qui était aussi coupé de ses provinces anatoliennes, et tout d'un coup, ça devient un peuple, ça devient une nation qui crée un État, qui plus est un État de droit, qui en quelques années, 3-4 ans, arrive à jeter les fondements d'un État sur lequel, effectivement, la Seconde République, lorsqu'elle est l'Arménie soviétisée, va se reposer également, continuer, et puis jusqu'à, effectivement, la fin de l'Union soviétique et la troisième indépendance.
Et le regard universitaire d'Anaïde Termination était particulièrement sur ces périodes-là, justement.
Tout à fait, sur cette période-là, et de montrer comment les Arméniens ont participé à l'histoire du monde à cette époque-là, et comment leur lutte, la diffusion, par exemple, on écoutait la diffusion des idées socialistes, des idées marxistes et la division du monde politique arménien dans tous ces petits mouvements entre bolcheviques, mencheviques, ça se répercutait également chez les Arméniens. Et alors, dans ce séminaire, ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas d'accès aux archives, ce qu'on appelle le grand travail sur les archives. On est en pleine guerre froide, tout d'abord. Les archives russes sont fermées.
Donc, comment a-t-elle fait alors pour...
Et les archives ottomanes aussi. Sébastien, oui, comment a-t-elle fait? Donc les archives ottomanes, les archives russes sont fermées, elle se met à aller aux bibliothèques des méritaristes à Vienne et à Venise. Je me souviens que tous les étés, elle partait au moins un mois là-bas et elle déchiffrait la presse arménienne et elle commençait son séminaire en parlant de différents articles qu'elle avait lus de presse, parce qu'il y avait une presse effectivement florissante, et elle venait, on essayait de savoir quelles étaient les positions politiques des uns et des autres, et retraverser le parcours de révolutionnaires arméniens, de mouvements comme les spécifistes ou des premiers marxistes, comment se passait la réception du marxisme dans les provinces arméniennes, voilà.
Alors Isabelle Cortian, vous êtes l'auteur d'un très bel article, un hommage paru dans les Nouvelles d'Arménie magazine.
Oui.
Récemment, je me permets de vous citer. Elle est du côté des bâtisseurs. Son aura transgénérationnelle s'explique par le concept de vie qui l'anima, auquel elle rendit grâce, refusant les passions tristes et mortifères qui amputent ou aveuglent, interdisant toute intelligibilité du monde et perception de la beauté des choses. C'est pourquoi il n'y aura pas de deuil.
Oui. Oui, je crois que pour Anaïde, il fallait dire cela, parce que c'est vraiment une personne au savoir universel qui s'inscrit dans le monde, qui ne veut pas se penser comme... c'est une enfant de survivant, c'est la deuxième génération, celle dont il est le moins question, celle dont même quand on a eu un renouveau et une levée progressive et partielle du tabou en Turquie aujourd'hui, on parle des grands-parents, des survivants du génocide, on parle des petits-enfants, mais on a toujours oublié de mettre l'accent sur l'enfant de survivant, ce qui n'était pas une situation facile. Et Anaïde a extrêmement incarné cette figure de l'enfant de survivant, animé par un concept de vie, refusant effectivement les passions mortifères, refusant d'être constamment dans le deuil, mais elle a construit, elle a effectivement inscrit cette histoire arménienne, montré comment c'était un peuple qui a voulu faire un État, qui a vécu dans un État, qui a fondé l'université, et elle aussi, elle a contribué à faire connaître tout ça pour qu'on ne résume pas l'histoire de ce peuple à 1915.
Alors Taline Termination, je me tourne vers vous maintenant, on se connaît bien, vous êtes venu régulièrement dans notre émission et surtout on se voyait à chaque fois que vous preniez le temps d'accompagner Anaïde pour venir jusqu'à nos studios. c'est toujours difficile d'évoquer le souvenir d'une mère, je me permet quand même de vous poser une question et vous remercier. Qu'est-ce qui restera?
Non, mais bon, le souvenir, déjà, je conteste le mot de souvenir parce que c'est quelque chose qui me... c'est une notion qui ne me parle pas, en l'occurrence, parce que ça ne se réduit pas à un souvenir, mais plutôt à une présence, oui, effectivement. Donc, je m'accroche beaucoup à la phrase qu'a écrite Isabelle Courtian dans cette magnifique article qu'elle a publié, en l'occurrence, dans Les Nouvelles d'Arménie. J'en profite d'ailleurs pour signaler qu'il y a eu aussi un numéro spécial de France-Arménie, consacré également personnage des terminations, donc c'est déjà un peu curieux de voir donc effectivement sa mère, ce personnage universitaire transformé en une de magazine. Donc de quoi parlait-on? Oui, je voulais juste rajouter que en plus de ses voyages effectivement à Vienne dont je me souviens, ma mère aussi faisait partie de ces personnages pionniers qui ont aussi envisagé et réalisé des voyages en Arménie soviétique, à l'époque soviétique, où elle allait pour compléter justement ces fameuses recherches dans les collections des Ritalistes de Vienne ou de Venise, parce qu'en fait ces voyages c'était Venise, Vienne ou Yerevan, dans les collections du Madenatana. Donc elle travaillait beaucoup à partir des collections de presse en effet qui étaient dispersées aux différents coins de l'Europe et justement aussi en Arménie soviétique. Bon, de cela, elle rapportait aussi bien autre chose que simplement du matériau historique. De cela, elle rapportait aussi des observations d'actualité s'agissant notamment de la société soviétique des années 70-80.
Son premier voyage en Arménie, c'est 1966. Oui. Voilà. Puis après,
70,
elle a été...
voilà.
66. Après, le premier voyage d'Anaïde, c'est 66.
Mais le long
séjour
qu'elle a fait seule à Yerevan, ça doit être 73, en tout cas j'étais en 6e, donc je me souviens en effet qu'elle avait disparu pendant un assez long temps, et c'est comme un voyage dans l'autre côté du miroir, parce qu'à cette époque les frontières étaient quand même très réelles, et donc quand on passait de l'autre côté du mur, ça voulait encore dire quelque chose. Bon, de cela, elle a ramené des observations très très humoristiques de la société soviétique de l'époque.
Alors nous allons écouter maintenant une pièce musicale, je crois, de Cathy Berberian. Pourquoi avez-vous choisi ce morceau?
Parce que ma mère était la fille de ma grand-mère, qui en l'occurrence avait comme l'un des objectifs de son existence de devenir une grande cantatrice, qu'elle n'est malheureusement pas devenue. Et ma mère tenait en fait en quelque sorte un peu en détestation les cantatrices classiques. Et n'était pas non plus tellement portée vers la musique folklorique, mais il se trouve que avec son amie Nazeli Fortune, qui était aussi l'un des autres piliers de ce séminaire dont je tiens à rappeler ici le souvenir, elles étaient allées au début des années 80 assister à un concert de Cathy Berberian. Ma mère était revenue de là en disant je veux que tu fasses venir Cathy Berberian à l'église arménienne le jour de mon enterrement. Bon, ça c'était vraiment au début des années 80, lourde charge, et en fait ça ne s'est évidemment pas passé comme ça, parce que Cathy Berberian est morte prématurément en 1983, à un âge relativement jeune, elle avait 56 ou 57 ans, et donc voilà, c'est une manière de convoquer Cathy Berbérian de l'outre-tombe, de convoquer ce personnage très haut en couleur, très dans une musique d'ailleurs très joyeuse, pour célébrer également la mémoire de ma mère.
Isabelle, je voudrais continuer à citer votre article. Ce serait pourtant se méprendre sur son rôle que de la communautariser. Ça, c'était une notion très importante pour elle. C'est bien l'universalité du savoir qu'elle visait, et ces mots avaient tout leur sens pour cette citoyenne qui vouait à la France, terre d'exil de ses parents, une admiration certaine, défendant opiniâtrement les valeurs universelles et les principes de la République française.
Oui, tout à fait. Anaïs Termination, c'était pas du tout l'enfermement au sein d'un ghetto, et c'est véritablement le savoir universel qu'elle visait.
Elle détonnait dans la diaspora arménienne un petit
elle,
peu.
Elle détonnait dans la diaspora arménienne, et à son séminaire, tout le monde, enfin, il y avait énormément de gens qui assistaient en dehors des Arméniens et en dehors des étudiants français. Il y avait des gens du monde entier qui assistaient, et effectivement, elle est, enfin, ce qui l'intéressait, c'est l'histoire du monde, c'est le savoir universel, et le ghetto, c'est tout ce à quoi elle voulait qu'on échappe, et elle pensait qu'effectivement on ne devait pas s'enfermer dans un ghetto. C'était très important.
Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai rencontrée à Istanbul avec d'autres personnes, et c'est vrai qu'elle était très éclectique sur ses amitiés. Elle parlait à tout le monde, il y avait vraiment aucune exclusion à aucun moment. En tout cas, on ne le sentait pas dans sa parole. Et à l'âge de 80 ans, alors elle s'est rendue régulièrement en Turquie. Nous parlions de l'Union soviétique tout à l'heure, mais le monde
turc. Pas 80, 85.
À 85 ans.
Oui, 85 ans, elle est partie en chaussures de marche, en jean, avec ses deux fils.
Alors ça, c'est le pèlerinage sur ce monastère qui s'appelle Garabet, voilà. Oui. Mais je crois qu'elle était venue avant, en Turquie.
Il y a eu des voyages précédents. Oui, là, moi, je parlais
du
pèlerinage au Marut Alej, la montagne de David de Sassoon, etc.
Racontons un petit peu ce
voyage.
Non,
mais je le raconte, je ne peux pas le raconter, puisque je n'avais pas l'heure de faire partie de ce voyage, et j'en ai conçu une certaine jalousie. Elle a organisé ça avec deux de mes frères, et ni le troisième ni sa fille, bon, pour des raisons d'organisation disons domestique et familiale. Donc ils sont partis en effet en 2014 dans une sorte de pèlerinage vers le Sassoon et le fameux Marut Alej de l'épopée de David de Sassoon. Et donc voilà, il leur est arrivé des tas d'aventures. Ils ont notamment pas reçu leur bagage dans la ville de Batman, ce qui fait que ma mère, à l'âge de 85 ans, s'est retrouvée à faire du camping vraiment et même du bivouac comme elle avait l'habitude de le faire depuis sa jeunesse et aussi pendant toutes nos vacances familiales. On campait, on faisait des randonnées, etc. Mais enfin, à 85 ans, ça commence à devenir un peu rude. Donc elle a dormi effectivement sans aucun rechange dans des abris de chèvres auprès des Kurdes au fin fond de la montagne. Enfin, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc ils ont vécu comme ça pendant 10 jours et voilà. Et Agos a publié une image assez emblématique d'elle traversant je ne sais quel pont suspendu.
Alors, je ne sais pas si c'est ce voyage-là ou un précédent où elle s'est rendue en pèlerinage à Soub Karabed et sa mère, justement, Almenoui Kevonian, avait l'habitude avant, effectivement, d'arriver en France. Elle avait été là-bas et elle avait écrit dans le journal Arach, comment ça se passait le pèlerinage. Et donc, Anaïd s'est rendue, à ce monastère Soub Karabed à Mouche. Donc, elle est originaire de cette région, de la ville de Mouche et ses parents aussi. Et ils ont, elle emporté avec elle ce numéro du journal Arach et dans lequel sa propre mère racontait ce qu'était le pèlerinage et elle a fait la lecture de cet article de sa mère paru dans Arach à quelques personnes qui étaient là et des gens autour parce que vous savez comment c'est quand on aperçoit des gens qui viennent de l'extérieur ou les autres villageois ou les gens à côté s'approchent et tout le monde était là et ça a été un moment d'une très forte émotion. Et c'était, je vais ajouter que ces voyages pour Anaïd, c'était sans doute, et ce fut quelque chose d'extrêmement important. Elle a vécu toute sa jeunesse en pensant qu'un beau jour, parce que c'était ce que les parents disaient, un jour les Arméniens retourneraient. Et puis la vie est passée, les Arméniens ne sont retournés ni en Anatolie, ils ne sont pas retournés non plus en Arménie soviétique lorsque l'Arménie est redevenue indépendante. Mais elle est retournée sur la terre de ses parents et elle disait j'ai compris qu'elle était habitée par d'autres, mais je n'ai aucune haine envers eux.
Elle était capable d'affronter le passé, elle était capable d'en parler, elle était capable de revenir sur ces terres meurtries. C'est quelque chose qui a été, qui n'est pas commun encore une fois dans cette démarche.
Je crois que ce qui la différencie de beaucoup d'autres personnes, c'est qu'elle était profondément animée par un concept de vie. Et que, puisqu'elle était survivante, puisque ses parents ont survécu, puisqu'elle était vivante, elle devait constamment affirmer la vie. Et la vie, c'était sa propre existence et celle de son peuple. Bien présent, bien vivant.
L'émission se termine maintenant. Taline, est-ce que vous avez quelque chose à dire, peut-être ?
Rien, vous remercier Sébastien d'avoir consacré cette émission de Chrétien d'Orient à laquelle elle était vraiment très très attachée. Donc je souhaite bonne continuation pour les Chrétiens d'Orient au nom d'Anaïd.
Merci beaucoup.
Merci Sébastien.
Je voudrais remercier Isabelle Cortian et Taline Termination pour être venues ce matin pour nous parler ensemble d'Anaïd Termination, voilà, qui va beaucoup nous manquer. Je remercie aussi Olivier Dupré, Claire Poinsignan, Dany Journaud pour la réalisation de cette émission et nous retrouvons maintenant le service protestant. Bon dimanche.